Vous écoutez RFI tout de suite. Vous retrouvez Mickaël Ponge pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Mickaël.
Bonjour Anne, merci. Il est 8h10 à la Nouvelle-Orléans. La Louisiane qui sort d'une nuit noire, pleine d'angoisse, privée de courant et qui constate les dégâts causés par Rita, ouragan rétrogradé ce matin en tempête tropicale. On sera aussi aujourd'hui dans le sud d'Haïti où après le séisme du 14 août, une question se pose, la rentrée scolaire pourra-t-elle avoir lieu comme prévu la semaine prochaine? Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, les dernières heures des Américains aussi en Afghanistan, avant-dernier jour de la présence US ce lundi. Et puis le journal de la première avec vous, Benoît Ferrand, la pénurie de médecins en Guyane à la une.
Oui, en cette période où grippe et gastro font leur grand retour, sans parler évidemment de l'épidémie de Covid-19, la pénurie de généralistes se fait cruellement sentir dans le département français de l'Amérique du Sud.
On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Benoît, bienvenue à tous. Et ce que vous entendez là, c'est le bruit du vent, sa violence et les pluies torrentielles drainées par Rita. Des vidéos amateurs comme celle-ci tournent en boucle sur les réseaux sociaux depuis hier, depuis qu'Ida a touché la Louisiane au sud des États-Unis. Le puissant ouragan a perdu depuis en intensité. Il poursuit maintenant sa route vers le nord, la Louisiane. Elle se réveille et constate peu à peu les dégâts. Bonjour Thomas Harms.
Bonjour Mickaël.
Vous êtes l'un de nos correspondants aux États-Unis. Thomas, quelle est la situation donc, je le disais, à l'heure où le jour se lève en Louisiane?
Alors, les habitants de Louisiane sortent peu à peu, prudemment, pour inspecter les dégâts, malgré le couvre-feu imposé par les autorités dans plusieurs localités de l'État. Outre les arbres déracinés, des façades de vieux bâtiments ont cédé, notamment à la Nouvelle-Orléans. On peut aussi voir que des toitures se sont envolées et les hôpitaux n'ont pas été épargnés, comme celui de La Fourche, qui traitait de nombreux cas de Covid-19. Les autorités demandent aux résidents de rester quand même dans leur abri, car le danger n'est pas écarté. D'autant que dans le sud de la Louisiane, le service 911, le service d'aide d'urgence, ne répond plus, les lignes sont coupées. Car si ce matin, Ida a été reléguée en tempête tropicale, l'ouragan a frappé la Louisiane pendant 16 heures. Et la pluie et les eaux stagnantes sont toujours très présentes. La rapide montée des eaux a aussi causé la rupture de digues et des inondations majeures à la Nouvelle-Orléans, qui est déjà sans électricité ni eau. Au total, plus d'un million de personnes en Louisiane et dans le Mississippi sont privées de courant. Et cela pourrait durer plusieurs jours, même si le principal fournisseur d'énergie avait anticipé et envoyé des centaines de camions pour réparer les dégâts juste après le passage de l'ouragan. Pour l'instant, le bilan humain est d'un mort, un homme d'une soixantaine d'années qui a perdu la vie à Prairieville, au nord de la Nouvelle-Orléans, quand un arbre lui est tombé dessus. Ida, vous le disiez, poursuit sa route et devrait atteindre le Mississippi dans les prochaines heures, où les services de secours sont déjà en état d'alerte.
Thomas Harms en direct avec nous de Houston au Texas. Merci beaucoup Thomas, vous le précisiez, les autorités de Louisiane invitent les habitants à rester où ils sont. Un certain, en tout cas d'entre eux, avaient malgré le danger décidé de rester chez eux, en dépit aussi des ordres d'évacuation. Bonjour à vous Romain Lemaresquier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Vous avez parcouru la presse américaine. Est-ce qu'on a des nouvelles de ces gens qui sont restés chez eux?
Eh bien, selon le New Orleans Advocate, un quotidien local, les habitants de cet État qui ont décidé de rester chez eux sont pour beaucoup encore bloqués dans leur grenier. D'autres réclament de l'aide pour être évacués, mais selon ce quotidien, les services de secours refusent encore pour l'instant toute assistance, estimant que la situation est trop dangereuse. Les dégâts à la Nouvelle-Orléans sont considérables, selon le New Orleans Advocate, qui publie en une photo impressionnante des services météorologiques avec l'œil de l'ouragan presque au-dessus de la Nouvelle-Orléans. D'autres photos publiées dans l'édition de ce lundi montre les mesures préventives mises en place, notamment pour faire face à une montée des eaux afin d'éviter que ne se reproduisent les inondations d'il y a 16 ans lors du passage de l'ouragan Katrina. La situation reste donc très tendue, prévient le New York Times, et le bilan pourrait bien évoluer ce lundi après une nuit de dimanche à lundi qui s'annonçait très compliquée. De très fortes précipitations sont attendues dans les prochains jours en Louisiane ainsi que dans l'Alabama.
Et l'Alabama qui est donc aussi sur la route d'Ida. Avant de poursuivre ensemble, Romain, on prend tout de suite la direction d'Haïti.
Jérémy 92.7 FM.
On est dans le sud-ouest du pays, plus de deux semaines après le tremblement de terre du 14 août qui a fait plus de 2200 morts et détruit des dizaines de milliers de bâtiments, parmi lesquels de très nombreuses écoles. Comment alors, dans ce contexte, peut avoir lieu la rentrée des classes prévue lundi prochain, le 6 septembre, sur le terrain? La réalité, en tout cas, semble parler un tout autre langage que l'objectif fixé par les autorités. Nos envoyés spéciaux Stéphanie Schuller, Nicolas Benita et Mark Kingtoff-Casimir l'ont constaté.
Nous avons déjà visité 10 écoles. Sur ces 10 visités, il n'y a que 2 qui peuvent recevoir d'élèves. Donc la prochaine ouverture des classes qui est prévue pour le 6 septembre à Beaumont, cette ouverture n'est pas possible.
Fortin Rollin est l'inspecteur principal du district scolaire de Beaumont dans la Grande Anse. Comme ses collègues dans tous les départements sinistrés par le séisme, il a débuté la semaine dernière une inspection complète des établissements scolaires. L'inspecteur est accompagné dans sa mission par Jean-Ernst Saint-Fleur, un représentant haïtien de l'UNICEF.
C'est ça le travail, on est dans tout le département, milieu reculé ou pas, on y va. Et là, dans cette évaluation, effectivement, je suis à Beaumont, mais je vais me rendre dans les hauteurs de Dame-Marie, à Pestel, à Corail, pour faire le travail, parce qu'il faut effectivement qu'on arrive, c'est ça l'une des missions de l'UNICEF, aider les plus vulnérables, et les plus vulnérables, généralement, se retrouvent dans des endroits les plus reculés. Ils ne sont pas toujours à vie d'œil et nous, on doit les retrouver et les aider.
Dans la petite ville côtière de Corail, lourdement touchée par le séisme du 14 août, Ronnie Placide est inquiet. Il est enseignant dans une école privée de la ville. Son établissement est à terre, tout comme sa maison.
Je ne reçois aucun salaire. Normalement, les parents payent les frais scolaires à la rentrée et ensuite seulement les enseignants sont payés. Mais si l'école reste fermée, je ne gagne rien. C'est terrible pour moi et ma famille qui dormons à la Belle Étoile.
Les soucis économiques tourmentent aussi les parents d'élèves. Les paysans notamment ont tout perdu dans la catastrophe. Or, 80% des écoles en Haïti sont privées et donc payantes. Alcé Lavaux vit à Tournade, un petit village perché dans la montagne au-dessus de la ville de l'Asile, dans le département d'Enip.
Actuellement là, ici, les paysans vivent principalement de l'élevage. Leurs têtes de bétail sont leur seul capital. On vend une bête pour payer les frais scolaires. Mais le séisme a tué beaucoup d'animaux. Les gens n'auront pas assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école.
Déjà, il y avait beaucoup de problèmes dans l'éducation. Mais il y avait des manifs, il y avait... Payloc, il y avait beaucoup de choses, il y avait Corona. Donc encore, ça vient pour empirer les choses. Et c'est une catastrophe énorme.
Ginelle Chirimon est technicien formateur d'Haïti Futur. Cette ONG franco-haïtienne a équipé plus de 500 écoles dans le pays en électricité et en outils numériques, dont 200 dans les départements sinistrés par le tremblement de terre. L'organisation veut maintenant commencer par reconstruire 30 écoles dans le département du Sud, selon les normes parasismiques. Mais d'ici là, il faut bien que les élèves des écoles détruites puissent retourner en classe le plus rapidement possible.
Si on a des écoles qui sont complètement détruites, permettre aux enfants de suivre des cours dans d'autres écoles. Donc renforcer l'école qui est endommagée mais qui n'est pas totalement détruite. Comme ça, on pourrait permettre à deux écoles de fonctionner, une école matin et une école au soir, dans un même établissement.
Au centre-ville de l'Asile, l'école fondamentale a tenu debout. L'année dernière, elle a accueilli 390 élèves. Depuis le séisme, l'école sert d'abri provisoire et elle est dirigée par Brennus Saint-Jules.
Moi, en tant que directeur, je ne vois pas comment je vais reprendre l'année scolaire avec ma maison complètement détruite, mes habits sont disparus. Vous voyez, moi aussi, je suis un malade. Je dois avoir quand même un médecin pour m'aider, ouais, à me récupérer. Et voir les élèves,
Une averse tropicale s'abat sur les sinistrés.
Le séisme a complètement chamboulé notre vie, aussi bien matériellement que psychiquement.
Laurie Edouard, élève en terminale, option philo.
Je me sens démoralisée, j'ai l'impression que la terre continue à trembler, même si ce n'est pas le cas.
Le fait d'aller à l'école... N'est pas seulement l'apprentissage, n'est-ce pas ?
c'est aussi d'être avec les autres élèves, d'être avec les professeurs. C'est quelque chose qui compte pour vous?
Oui, c'est vraiment triste parce que...
Oui, je suis triste parce que j'ai des amis de classe qui habitent loin. S'il n'y a pas d'école, je ne les vois pas. C'est la même chose pour les professeurs. Beaucoup habitent dans d'autres localités. Et sans école, je ne les vois pas. Nos blagues et nos discussions me manquent beaucoup. En même temps, j'ai l'impression de ne pas être encore assez en paix pour retourner en classe. Je ne dors presque pas. N'importe quel bruit me fait sursauter. Et je n'arrive pas à manger. Voilà.
Après le séisme en Haïti, les écoles, mais aussi les personnes, sont à reconstruire. À Beaumont, dans le département de la Grand'Anse, l'inspecteur principal du district scolaire, Fortin Rollin, s'apprête à visiter la prochaine école détruite.
En Haïti, surtout en ces derniers temps, nous vivons une histoire très difficile. Nous venons de perdre notre président et ce séisme vient nous frapper. Donc, l'une des façons qui serait la plus utile, c'est d'aider véritablement à avoir une éducation de qualité en Haïti. À nous aider à nous relever sur le plan physique, mental, intellectuel. Aider à ce que la jeunesse haïtienne ait une nouvelle conception de la vie. Ça, c'est la seule façon pour nous de rêver une Haïti meilleure pour les futures générations.
Stéphanie Schuller, Nicolas Benita et Markintov Casimir, entre la Grand'Anse et l'INIP, RFI.
Le reportage de nos envoyés spéciaux en Haïti où il est 9h21, comme à Washington. RFI. The World's Voices. Les opérations d'Afghanistan se poursuivent. Les opérations d'évacuation sans interruption assurent la Maison Blanche américaine qui consacre ses dernières heures de présence dans le pays à faire sortir encore ses 300 ressortissants toujours sur place. Demain, 31 août, l'armée américaine quittera définitivement l'Afghanistan. Dans un climat de grande tension, plusieurs roquettes ont été tirées ce matin par le groupe État islamique vers l'aéroport de Kaboul. Hier, un drone américain a frappé un véhicule piégé d'explosifs, alors qu'au même moment, aux États-Unis, Joe Biden participait, lui, à une cérémonie en hommage aux 13 soldats américains tués jeudi dernier dans l'attentat survenu à l'aéroport de Kaboul. On y revient avec Alexis Guilleux.
Le visage grave et la main sur le cœur, Joe Biden a regardé défiler les 13 cercueils blancs recouverts d'un drapeau américain. À ses côtés, la première dame, Jill Biden, les secrétaires d'État et de la Défense, ainsi que plusieurs hauts gradés de l'armée. Un peu plus tard, alors qu'il s'exprimait sur l'avancée de l'ouragan Ida, le président a tenu à mentionner cette cérémonie.
Avec Jill, nous avons rencontré les familles des 13 héros tombés en Afghanistan. Alors que nous espérons le meilleur pour la Louisiane, gardons-les également dans nos prières.
Joe Biden avait promis un retrait sûr et en bon ordre d'Afghanistan. Les critiques sur la gestion de la crise afghane étaient déjà fortes. Elles sont de plus en plus virulentes depuis l'attentat de jeudi du côté du Parti républicain. C'est l'une des pires décisions de politique étrangère de l'histoire américaine, a lancé Mitch McConnell, le chef de l'opposition au Sénat. Une colère partagée par l'élu du Nebraska, Ben Sasse.
Clairement, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas eu de plan. Des gens sont morts et d'autres vont mourir parce que le président Biden a préféré se baser sur des discours optimistes plutôt que sur la réalité.
Alors que les Américains doivent quitter l'Afghanistan demain, la popularité de Joe Biden est en berne. D'après un récent sondage CBS, 74% des personnes interrogées estiment que le retrait des troupes a été mal géré. Alexis Guilleux, New York, RFI.
Et on reviendra demain avec un invité sur les conséquences politiques pour Joe Biden de ce retrait. Romain Lemareski, vous êtes toujours avec nous. Vous nous parlez, vous, maintenant de cet influenceur sur Instagram qui est parvenu à lever 7 millions de dollars pour aider justement à l'évacuation d'Afghans.
Oui, il s'agit d'une information qui a été publiée par l'agence de presse américaine AP. Alors, Quentin Tarantino, de son vrai nom, Tommy Marcus, un jeune homme de 25 ans, qui était jusqu'à présent connu pour ses mèmes libéraux et ses blagues sur les opposants à la vaccination contre le Covid-19, est parvenu à lever en quelques jours 7 millions de dollars sur la plateforme GoFundMe pour lancer des missions de sauvetage en Afghanistan. L'idée étant d'évacuer autant de personnes que possible. Plus de 121 000 personnes avait répondu à son appel parmi les 832 000 abonnés à son compte Instagram. « Cela a restauré ma foi en l'humanité », a déclaré cet influenceur qui estime qu'environ 350 personnes ont pu être sauvées grâce à cette opération.
On parle encore d'Afghanistan, Romain. Il n'y a pas que les États-Unis et le Canada qui accueillent des réfugiés sur le continent américain. Le Mexique annonce aussi l'arrivée de familles afghanes sur son sol.
Oui, la semaine dernière, les autorités mexicaines annonçaient l'arrivée de près de 130 Afghans au Mexique. Et ce dimanche, un troisième groupe composé de 86 personnes est arrivé dans la capitale. Des réfugiés qui avaient pu être évacués dans un premier temps vers le Qatar et le Royaume-Uni, précise Milenio. Il s'agit principalement de journalistes et de leurs familles. Selon les autorités mexicaines, d'autres demandes vont être étudiées dans les prochaines heures et les prochains jours, ce qui devrait permettre à plus de personnes d'obtenir le statut de réfugié au Mexique, Michael.
Voilà donc pour ce dossier Afghan, Romain, j'ajoute que les États-Unis organisent aujourd'hui une visioconférence avec plusieurs pays pour évoquer l'après 31 août. Le Mexique, Romain, que vous évoquiez, un petit mot aussi du retour en classe après un an et demi d'école à distance à cause du Covid, bien sûr, pour les élèves mexicains.
Gel hydroalcoolique, prise de température, fenêtres ouvertes et surtout des doutes et des craintes. C'est dans ces conditions que les quelques 30 millions d'élèves et étudiants mexicains vont revenir en cours. Détail ce matin à Diario Libre. Si les autorités se disent confiantes, des directeurs et directrices d'établissements se disent moins optimistes. Les moyens manquent et l'État n'a pas fait le nécessaire pour préparer les salles de classe, estime par exemple Bettina Delgadil, directrice d'une école privée dans l'État de Nuevo León, qui avoue ne pas savoir à quoi s'attendre pour cette reprise.
Romain Le Maresquier, la presse avec vous. Merci beaucoup. L'épidémie de Covid qui fait aussi un peu la une du journal de la Première, tout de suite.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Recherche médecin désespérément en cette période d'épidémie. La pénurie de généralistes en Guyane se fait plus que jamais sentir.
Eh oui, car il y a l'épidémie de Covid-19, mais c'est également la période où grippe et gastro font leur grand retour et il n'y a pas de médecin, ou plus précisément, il n'y en a pas assez. Et rien pour l'instant ne permet d'affirmer, comme on dit, que ça ira mieux demain. Reportage Guillaume Perrault.
Je suis arrivé à 5h15 et il y avait déjà les gens devant moi.
En Guyane, le manque de médecins n'est pas une nouveauté. Le docteur Félix Ngomba, président du Conseil de l'Ordre des médecins, estime que la situation est extrêmement critique.
Pour l'île de Cayenne, qui regroupe l'essentiel de la population guyanaise, une cinquantaine de médecins généralistes, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas possible. Je ne connais pas de territoire qui soit aussi désertique que la Guyane. On est au-delà du désert médical. Les patients qui sont inquiets se surajoutent aux patients habituels. Et vu que les cabinets ne sont pas tous ouverts, nos cabinets d'habitude qui sont déjà remplis sont un peu plus remplis actuellement.
Comment rendre plus attractif notre territoire pour attirer des médecins, et notamment des jeunes médecins? C'est l'épineuse question auxquelles doit tenter de répondre l'Union régionale des professionnels de santé, l'Agence régionale de santé et le Conseil de l'Ordre des médecins.
Direction maintenant la Guadeloupe avec ce témoignage poignant, cette lettre ouverte d'une jeune interne au CHU de Pointe-à-Pitre. Elle écrit ce qu'elle vit, elle écrit ce qu'elle voit et elle lance un véritable cri d'alerte. Franck Aristide.
Nous n'arrivons pas à contenir la vague, même avec toute la volonté et les nuits debout. Les personnes qui arrivent gravement atteintes décèdent. C'est le cri du cœur de cette interne, pourtant habituée à côtoyer la mort, mais jamais à de tels niveaux. Obligée, raconte-t-elle, d'expliquer à des proches que les leurs de 40 ans, sans comorbidité, intubés sur le ventre, ont de grandes chances de mourir. Obligée de dire à des enfants que leur père de 60 ans ne sera pas accepté en réanimation, parce que le service ne peut pas donner de place à ceux qui n'ont que très peu de chances de s'en sortir vivants. Et de conclure que nous payons un retard de vaccination et qu'il serait de mauvaise foi de ne pas l'admettre, tout en comprenant les raisons à l'origine de la méfiance, mais avec une situation bien trop tragique pour être politisée. Aucun peuple, finit-elle, ne pourra se battre pour sa liberté et sa justice s'il n'est pas vivant et en bonne santé.
Franck Aristide de la Première Guadeloupe. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À demain, en effet, à vous et aux équipes de la Première qui refermait, comme chaque jour, ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous où, je le disais, on évoquera la situation en Afghanistan et les conséquences politiques que cela pourrait avoir pour le président américain Joe Biden. Demain, 31 août, dernier jour de présence américaine en Afghanistan après 20 ans de guerre.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Tout
à l'heure sur